prochaine semaine, cette série-là, courte série, va être tirée d'un livre qu'on ne parle pas souvent. En fait, c'est l'Épître à Philémon, qui a un seul chapitre. Fait que vous pouvez vous préparer, lire l'Épître à Philémon cette semaine. Vous allez en avoir pour un gros 5-7 minutes, là. Pas plus, là. On ne parle pas du psaume 119 ici. Mais pour les deux prochaines semaines, ça va être notre série. Ce matin, c'est la conclusion de notre série Relations. Et on va avoir quelqu'un de l'équipe pastorale qui va venir apporter un message, qui n'a pas apporté un message encore. Mais en fait, c'est Cathy Leclerc qui fait partie de l'équipe. Et en fait, elle et Samuel sont de Mosaïque depuis jour 1. Ils font partie Non, je dirais pas des meubles, mais quasiment des quelques personnes qui sont là depuis le début. Ils ont toutes vu l'évolution, ils sont impliqués depuis le début. Cathy a déjà été la responsable jeunesse alors qu'on était au centre-ville. Peut-être que vous la voyez souvent le dimanche matin courir à gauche, à droite, parce qu'elle s'occupe de toute la logistique, des bénévoles et de moi junior en bas. Mais au-delà de ça, pourquoi elle fait partie de l'équipe pastorale? Parce que faire l'œuvre d'un pasteur, c'est pas juste prêcher le dimanche matin. Il y en a qui pensent ça, là. Que le reste de la semaine, on lit notre Bible, c'est tout. Détrompez-vous. Il y a beaucoup d'autres tâches connexes. Mais au-delà de ça, faire l'œuvre pastorale, c'est de prendre soin de l'âme, de l'esprit et de la personne en général, d'assurer un soutien spirituel et de pouvoir être là pour accompagner, encourager, exhorter, édifier. Alors, à cet effet-là, si c'est ça, faire l'œuvre pastorale, d'être un pasteur, bien, je pourrais officiellement dire que c'est le cas pour Cathy. Donc, est-ce qu'on pourrait accueillir, puis c'est une collègue de travail en or en passant.
Hey, aïe, aïe, il a mis la barre haute un matin, lui. Bon, là, je vais m'installer, ça va prendre 2 petites secondes, ils n'ont toutes pas la même grandeur que moi ici. Bonjour à tout le monde. Vous êtes tous arrivés. Bienvenue, mesdames aussi. Alors, ce matin, c'est moi qui est avec vous. Je suis honorée de ça, en fait, que l'équipe pastorale et le conseil d'administration me fassent confiance pour ça ce matin. Évidemment, je vais parler des femmes ce matin. Hein. Si vous avez suivi, on a eu la partie hommes que Pasteur Christian a apportée, la partie couple qu'Emmanuel et Émilie ont apportée, et la partie femme, que c'est moi qui apporte ce matin. On aurait bien voulu que ce soit Christian, mais essayer de marcher en talons hauts toute la semaine, c'était un flop total. Fait qu'on a dit, non, c'est beau, je vais le faire. Je blague, là. Vraiment, n'ayez pas cette image-là, s'il vous plaît. Alors, ce matin, je m'adresse aux femmes, oui. Mais je pense que ce message-là est essentiel pour les oreilles des hommes. Donc, pourquoi? Pas juste pour les maris, là. Pas juste pour les conjoints. Non, non, non. Pour les hommes qui vivent avec des femmes autour d'eux, c'est votre cas, c'est sûr, parce que je suis certaine que vous avez une sœur, une mère, quelqu'un dans votre vie, une amie qui est une femme. Fait que, écoutez, ça va être pour vous, puis je pense que ça va être vraiment pertinent pour aider à les comprendre et aussi, surtout, à les encourager et à les élever au plan de Dieu. Et en fait, ce n'est pas nécessairement pour généraliser toutes les femmes ce que je vais dire ce matin, mais je pense que ça va parler quand même quand même une grande quantité de femmes. Donc, débutons avec un passage dans Marc, dans l'Évangile de Marc, le chapitre 12, verset 30, qui dit « Jésus répondit, « Voici le premier commandement. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. » Les paroles de Jésus ici sont d'une importance capitale. Puis si vous avez lu les évangiles, vous voyez que c'est un discours qu'on retrouve partout. En fait, les relations sont au centre de la vie avec Jésus. Donc, en tant qu'enseignement aussi dans les évangiles, on voit énormément de liens dans le fait d'avoir de meilleures relations et de pouvoir justement aimer notre prochain. Retournons en arrière, là, mais vraiment en arrière, à l'arrivée de Ève. Alors, Lorsqu'Ève est arrivée, ça a été la première relation interpersonnelle qui s'est installée. Oui, Adam était avec Dieu, mais interpersonnel, on parle de deux humains ensemble. Alors ici, regardons dans Genèse 2:18, le verset, je veux vraiment que vous portiez une attention là, sur le mot qui est souligné en noir. Ben, c'est tout noir, mais plus gros, mettons. Il n'est pas bon, et puis c'est blanc en plus. Je viens d'entendre rire. OK, bon, bref, le plus gros en blanc. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est pourquoi je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. La femme ici, là, lorsqu'elle est arrivée sur la terre, elle a répondu à un besoin essentiel. La femme est arrivée avec, ben, en fait, ce que Dieu a créé en elle pour être en relation avec l'homme. Pour que l'homme ne soit pas seul, pour que l'homme soit, en fait, puisse vivre ses émotions. Oui, c'est ça que j'ai dit, hein, ses émotions. Qu'il puisse vivre et partager et communiquer et tout ce qui englobe les relations. Alors, l'épanouissement, en réalité, là, Dieu, là, il voyait ça seulement avec quelqu'un d'autre. Oui, l'épanouissement en Dieu, mais aussi avec un autre. Et c'est pour ça que c'est les deux premiers commandements. Pour bien comprendre l'impact d'Ève ici sur la vie d'Adam, on va regarder qu'est-ce que ça veut dire ce mot-là, le mot « aide ». Alors, c'est une définition qui vient de l'hébreu, en fait, le mot « ézer ». Je ne sais pas si je le prononce comme il faut, mais vous le lisez comme ça, en tout cas. Alors, ça veut dire le mot « secourir ». Et ce mot-là, « secourir », c'est la même signification que le mot « secours » ou « secourir » qui représentait Dieu auprès de son peuple. Il y a 11 versets exactement dans les psaumes qui utilisent cette signification-là, et il y en a plus d'une vingtaine dans tout l'Ancien Testament. Et vraiment loin l'idée de dire que la femme était là pour sauver l'humanité. Là. Faites-moi pas dire ce que j'ai pas dit. Par contre, le monde sans la femme n'était pas dans les pensées de Dieu. Alors, la femme a une valeur inestimable. Moi, ça fait 5 ans que je suis dans l'équipe pastorale, mais avant, j'étais intervenante auprès des familles. Donc, une dizaine d'années d'expérience auprès des femmes, de toutes sortes de femmes. Des mamans, des jeunes mamans, des femmes seules, des veuves, des dames retraitées. Écoutez, des croyantes, des non-croyantes, j'en ai vu quand même pas mal de toutes les sortes. Et sans vouloir généraliser, comme je l'ai dit tantôt, elles ont toutes un besoin, le besoin d'être importantes, le besoin d'être reconnues, qu'on les estime dans ce qu'elles sont, qu'on les considère dans leur choix, qu'on les considère dans leur identité. Alors, nos complexes en tant que femmes, notre estime de soi, nos critères de performance et toutes nos blessures, puis tout ce qui englobe, en fait, ce qui se passe dans une vie, dans la vie d'une femme, mais ça peut nuire à nos relations. Et c'est un lien direct avec notre valeur qu'on perçoit. Il y a trop de gens qui ne savent pas qu'ils ont de la valeur. Je ne sais pas si vous avez déjà vu la campagne de prévention sur la prévention du suicide. En fait, c'était peut-être plus au niveau du secondaire quand j'étais dans les milieux scolaires. Mais cette campagne-là avait pour petit objet, en fait, pour une petite épingle qui est écrite « T'es important pour moi ». Ils avaient compris un concept, eux autres, qu'il fallait se sentir important pour quelqu'un, mais qu'il fallait aussi être reconnu dans notre valeur en tant qu'individu. Alors que la parole de Dieu est très claire sur le fait qu'on vaut beaucoup pour lui et que Dieu y voit des choses en nous, des choses extraordinaires. On va regarder dans les psaumes 139, les versets 13 et 14. « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Tes œuvres sont admirables. C'est qui ça? C'est nous. les hommes et les femmes. Et de reconnaître cette vérité-là, c'est vraiment essentiel. C'est ce que Dieu nous encourage à faire. Moi, je suis fascinée par Jésus quand il allait vers les femmes dans les évangiles. Vous savez, les femmes, à ce moment-là, ils n'étaient vraiment pas reconnues. Hein? Les femmes étaient dévalorisées. Elles étaient aussi vues derrière toujours, puis on ne les écoutait pas nécessairement, on ne les entendait pas, comme on peut voir dans plusieurs récits qu'on voit dans les évangiles. Et ça, Jésus, il le savait. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on voit un récit avec une femme, on voit qu'il la valorise. On voit qu'il l'aime dans ce qu'elle est. Et il la place même à des endroits plus qu'essentiels pour sa gloire. Vous rappelez-vous, la résurrection, qui est-ce qui est allé annoncer que Jésus était vivant? C'est des femmes. Jésus, il a utilisé la Samaritaine pour aller évangéliser quasiment un peuple entier, là, un quartier entier. Des femmes qui étaient en plus, qui n'avaient pas nécessairement une vie que les gens reconnaissaient non plus, hein, on s'entend. Mais c'était la femme qui valorisait. Et il y a un lien énorme entre la reconnaissance de notre valeur en tant que femme et notre niveau d'estime de soi. Regardons un peu ce que Christophe André, un psychiatre, a fait comme définition sur l'estime de soi. C'est l'évaluation qu'une personne fait de sa propre valeur. L'estime de soi n'est pas qu'une question de regard sur soi. Elle est aussi ce ressenti émotionnel global qui nous envahit lorsqu'on pense à soi. Le service de psychologie de l'Université de Sherbrooke aussi a amené une étude sur l'estime, puis j'en ai sorti juste un petit bout. Il était super intéressant, là. J'aurais vraiment voulu vous beurrer ça, mais non, c'était pas une bonne idée. La conférence, ce sera pour plus tard. Alors, votre estime, ils disent, si elle est solide, peut être source de bien-être et d'épanouissement. À l'inverse, une estime fragile peut générer de la souffrance et affecter vos relations. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles on peut avoir une estime de nous faible. Mais il y a énormément de conséquences aussi à ça. Et ça peut avoir des conséquences sur le plan personnel, ça peut avoir des conséquences sur le plan relationnel, sur le plan professionnel aussi, sur notre santé mentale et sur notre relation au niveau spirituel aussi. Alors que une faible estime contribue aussi énormément à des mensonges qui sont dans notre tête et dans nos cœurs. On doit se nourrir de la vérité. Alors, regardons ce que Jean 15, dans le verset 16, dit. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. » Quand Jésus dit ça, il dit, « Mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi. » afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. On est choisi. Est-ce que vous réalisez ça? En fait, le mot « choisi » ici, là, il veut dire en grec « choisir au milieu de ». Ici, Jésus parle à ses disciples. Hein, et quand il parle à ses disciples, il sait très, très bien qu'il ne les a pas choisis parce qu'ils méritaient, là. Et ses disciples-là, ils étaient zéro parfaits, OK? Égal à nous tous. Alors, lorsqu'on voit qu'on est choisi, mais on sait qu'on est choisi pour être transformé dans la présence de Christ, on est choisi pour être utile pour lui. Et la cerise sur le sundae dans ce verset-là, moi, je trouve en plus, c'est qu'il nous dit même qu'à cause qu'on est choisi, on a une promesse, c'est d'être en relation avec Dieu. C'est-tu pas merveilleux? C'est un cadeau inestimable, moi, je trouve. On est choisi, puis j'ai l'impression que, bien, on ne le vit pas nécessairement, hein, intérieurement, là, au quotidien. En tout cas, moi, j'avoue, ça, il y a pas mal de journées où j'ai pas l'impression que je suis tant choisi que ça. Est-ce que toi, tu es porté aussi peut-être à te critiquer sévèrement? Est-ce que tu es porté à te diminuer ou à être anéanti par des critiques autour de toi? Même, je dirais que est-ce que d'accepter un compliment, c'est quelque chose qui est comme une tâche très ardue, ou bien même, peut-être que dans ta vie, tu essaies toujours de plaire aux autres, puis tu as même de la misère à mettre des limites puis à dire non. Est-ce que peut-être tu es victime d'abus autour de toi, tu sais, peut-être c'est dans ton travail, à la maison, tes enfants, il y a des choses en fait qui sont épouvantables, oui, à vivre, mais ce qui se passe dans notre tête, notre discours interne, nos pensées, ça aussi c'est très difficile à vivre. Et peut-être que toi, tu es toujours trop ou pas assez, hein? Toujours trop grande, trop émotive, trop grosse, pas assez belle, pas assez capable, pas assez fonctionnelle, pas assez de capacité. Est-ce que c'est ça qui résonne en toi quand on parle d'estime de soi, quand on parle de « go, vas-y, t'es capable, ben courage », est-ce que c'est des discours comme ça qui te reviennent? En fait, au début de nos fréquentations avec mon mari Sam, Dieu venait juste de rentrer dans ma vie, puis j'aurais pu cocher oui à vraiment beaucoup de choses dans cette liste-là. Et c'est pas nécessairement pour le relier à mon mari, quoi qu'il a vraiment aidé à ça, mais vraiment, il y a une situation dernièrement qui s'est passée, puis ça m'a frappée comment est-ce qu'il y a 17 ans de ça, j'aurais pas réagi du tout de la même manière. On est parti en rollerblade cet été, puis on faisait de rollerblade, nous autres, quand on s'est connus régulièrement. Et que je me donnais pour le suivre, mon doux! Je suivais pas pantoute. C'était vraiment difficile. Et ça fait vraiment longtemps qu'on a fait du rollerblade ensemble. D'habitude, on est avec les enfants, tu sais, puis c'est pas qu'ils sont pas bonnes, mais je veux dire, ils sont juste moins expérimentés. j'avais pas l'impression que je suivais pas tant que ça. Sauf que la dernière fois qu'on est allé, j'ai pris des rollerblades qui étaient dans le bac, qui restaient là depuis donc bien longtemps, puis je me suis dit, ah, il me semble qu'ils roulaient mieux eux autres. Et quand je les ai mis, puis que j'ai commencé avec Sam à patiner comme ça, je pense que je faisais 4 poussées pour lui une. OK, là, je ne suis pas là pour me justifier, mais quand même, mes rollers allaient vraiment mal, sauf que je vous avoue qu'il est vraiment plus en forme que moi. Fait que ce qu'il a fait, pour que je sois capable de toffer la run, il me poussait par des bouts, il se mettait en arrière de moi, puis là, il patinait en malade pour me donner une chance, puis que je sois capable de faire au moins une heure et demie avec lui, tu sais, au moins d'être capable de revenir. J'ai réalisé combien de temps, est-ce qu'il y a 17 ans de ça, j'aurais jamais accepté. Et que j'aurais eu honte. Ah non, puis en plus, fallait que je me prouve à lui, parce que moi, j'avais l'impression qu'il fallait que je sois encore plus forte pour qu'il me reconnaisse dans ma valeur, que je sois encore meilleure, que je me dépasse, puis que je sois donc bien meilleure que toutes les filles sur la piste cyclable qui ont des patins à 1000 pièces. C'était pas mon cas, je vous le confirme. Moi, j'ai été élevée avec deux grands frères qui étaient dans les arts martiaux ou tu sais dans beaucoup de choses qui reliaient à la compétition. Mon père, un gars de course automobile, garage. Mes parents étaient dans l'entraînement très, très fort, puis dans ma jeune enfance, ma mère, entre autres, était culturiste. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi, là, tu sais, là.
Les muscles, comme ça, là.
Bien, c'est ça. En fait, c'est le plus de muscles avec le moins de gras puis le moins d'habillement. Fait que c'est pour ça qu'il n'y a pas de photo. Parce qu'il y a un petit malaise. Mais pour vrai, il faut une discipline extraordinaire, puis je ne dégrade pas ça du tout. Mais voyez où je veux venir, OK? Les standards dans lesquels j'ai vu que des gens étaient, pour moi, fort bons, ces standards-là, je pensais réellement que pour être quelqu'un, il fallait que je les accote. Fait que c'est sûr que je suis partie avec une base où j'avais l'impression que je n'étais jamais assez. Peut-être que toi aussi, dans ta vie, il y a des choses comme ça qui te sont arrivées. Peut-être que dans ton environnement, soit tu t'es senti abandonné ou peut-être rejeté. Peut-être que ton enfance a contribué aussi à quelques blessures qui sont encore fraîches, pareil aujourd'hui. C'était peut-être que tes parents étaient plus absents, peut-être que tu avais un père qui n'était pas présent, pour nombreuses raisons. Il y a plusieurs facteurs qui influencent notre perception de nous-mêmes. Puis on est en contrôle de un seul. Notre choix. le choix qu'on fait. C'est le seul contrôle qu'on a. Oui, je crois que Dieu fait la majorité des choses quand il transforme. Oui, sincèrement. Mais je crois aussi qu'il nous donne un rôle. Puis ce rôle-là, c'est de choisir qu'est-ce qu'on va faire avec ce qu'on a, mais aussi de poser des actions. Et si c'est des choses depuis tantôt que ce que je dis, tu dis « Ah, mais mon doux, mais sérieusement, là, moi, j'ai abandonné, c'est trop. Je suis de même, là, puis oui, mon estime est faible, puis j'en ai pas de courage, à titre, on n'en parle plus. » Mais si c'est ça que tu penses, ça se peut que tu aies besoin de plus que de te dire « Oui, je vais le faire, oui, je vais foncer, puis je vais utiliser des outils, tout ça. » Peut-être que tu as besoin d'un accompagnement aussi. Peut-être que c'est d'un professionnel aussi que tu as besoin. Puis là, ici, au risque de me faire dire « Ben là, Dieu il peut faire le rôle d'un professionnel. » J'ai une information pour vous. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans un bureau de psychologue, travailleur social, peu importe, un intervenant qui peut vous aider. Est-ce qu'il y a un écriteau sur la porte qui est écrit « Accès interdit à Dieu » Ben, en tout cas, moi, je suis déjà allée puis je n'ai jamais vu ça. Puis je vous dis ça parce que ben, je pense vraiment que c'est quelque chose qui peut se faire quand on est chrétien, quand on a Dieu dans notre vie. On peut avoir de l'aide pareil parce que Dieu utilise les gens qui sont auprès de nous pour pouvoir nous donner des outils puis pouvoir nous faire nous transformer. C'est Dieu qui est à l'avant. Il fait juste les utiliser puis eux autres, ils ont juste vraiment beaucoup d'outils entre les mains et ils les utilisent. Fait que si jamais c'est quelque chose qui vous parle plus, bien, je vous encourage à aller chercher de l'aide pour ça. Mais on peut quand même, si on n'a pas nécessairement besoin de ces professionnels-là, on peut quand même décider de refuser hein, d'être celle qui a une estime faible. Et faire notre possible, parce qu'on va laisser Dieu faire l'impossible. Et je pense, en fait, moi, tous ces mensonges-là, oui, ils ne sont pas nécessairement partis sur la dernière ride de Rollerblade que j'ai faite. Je vous le confirme. Et pour ça, ce matin, ben, je vais vous montrer quelque chose qui, moi, m'aide, en fait, hein, parce que c'est encore des pensées qui sont présentes. Alors, quand je tombe dans le doute à propos de comment est-ce que j'ai à faire des choses et avoir des capacités pour y arriver, si je tombe dans le doute, je sais qu'il faut que je demande pardon à Dieu. Oui, parce que ça veut dire que je doute de lui. Mais au-delà de ça, j'ai aussi quelque chose de très concret qui est affiché chez moi dans mon bureau. Vous allez voir, c'est une partie de mon bureau. Alors, je lis régulièrement cette affiche-là. C'est écrit « Arrête de douter de toi-même. Dieu t'a donné des capacités. Dans la faiblesse, il est ta force. » Ben oui, j'ai besoin de refuser ces mensonges-là au quotidien. J'en suis beaucoup plus libérée que je l'étais, là, mais sincèrement, c'est des choses qui remontent régulièrement, puis surtout avec tout ce qu'on regarde autour de nous. Puis surtout si on commence à se comparer, c'est vraiment difficile. Eleanor Roosevelt a dit « Personne ne peut vous faire sentir inférieur sans votre consentement. » J'aimais beaucoup cette phrase-là. En plus de reconnaître notre valeur, on a aussi à apprendre à s'aimer. Oui, oui, c'est un autre élément essentiel. Les oreilles d'hommes, là, vous pouvez aussi écouter ça, ça va être pas pire, ça. Si vous mettez ça en pratique, vous aidez votre femme là-dedans, là, si c'est votre femme, votre sœur, n'importe qui, écoutez ça. Alors, c'est peut-être quelque chose qui n'a pas de l'air ben spirituel, des fois, de se dire, il faut s'arrêter, prendre soin de soi. Je sais qu'il y a eu des conceptions longtemps dans l'Église où c'était pas quelque chose qui était nécessairement mis de l'avant. Mais je ne sais pas s'ils lisent la même Bible que moi, parce que dans Éphésiens 5, 28, c'est clairement écrit. « Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ l'a fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. » C'est la Bible, ça. Oui, un équilibre. Toujours, l'équilibre est toujours bon. Je ne te dis pas d'aimer plus les autres que toi-même, comme je ne te dis pas « Aime-toi tellement que laisse tomber tout le monde puis n'aime plus personne. » Il faut de l'équilibre. Mais aimer son prochain comme soi-même, c'est aussi, ça veut aussi dire de prendre du temps pour te ressourcer en tant que femme. On le sait, là. Même moi, un matin, j'essayais de partir, puis ma fille, il fallait que j'y fasse son truc de cheveux pour sa danse, puis il y avait 10 000 affaires à faire, les collants n'étaient pas séchés. On le sait, c'est quoi être une femme, les femmes, hein? Les hommes, ils en ont beaucoup aussi, mais c'est différent. Et pour moi, je le sais que c'est vital d'avoir ce temps-là où je dois... Je l'ai peut-être appris un peu à la dure, oui. Mais en fait, je suis épouse, je suis mère, je suis aux études aussi. Nous, on a des locataires à gérer en plus. Je suis dans le ministère à temps plein. Puis tantôt, Christian l'a bien dit, oui, en fait, il n'y a pas de secrétaire ici. Mais c'est pas ça que je fais. Mais c'est des gens qui sont en arrière de chaque demande. Si vous travaillez auprès des gens, vous voyez l'essence de toujours avoir des demandes. Hein? C'est 24 heures sur 24, c'est 7 jours sur 7 des gens qui ont besoin. Alors, il faut être capable de mettre nos limites. Il faut être capable de dire, non, c'est mon temps, il faut que je me retire, il faut que je m'arrête, puis justement que j'aille me ressourcer en Dieu. Alors, je choisis de faire preuve de bienveillance envers moi-même, en fait, quand je fais ça. Mais cette bienveillance-là, là, ben, quand je rencontre des femmes, là, sincèrement, c'est pas un discours qu'elles ont bien. C'est vraiment pas très naturel d'être bienveillante envers soi-même, je vous le dis. Mais Jésus, il nous montre comment l'être en passant par lui. Dans Matthieu 11, on lit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Ce n'est pas supposé d'être lourd, d'être une femme. Mm-mm. Non, parce que Jésus n'a pas dit ici, « Hey, homme, mon fardeau est léger pour vous. Les femmes prendront le reste. » Ce n'est pas ça qui est écrit, on vient de le lire ensemble. L'humanité tout entière, c'est à nous qui parle. Alors, cessez d'être exigeante envers vous. Accordons-nous ce repos-là. Faisons-nous grâce. C'est ça qui nous a donné la grâce. Pourquoi nous, on n'est pas capable de le faire envers nous-mêmes? Faisons-nous grâce. Je vais inviter les musiciens à s'approcher. Les femmes ont été utilisées pour faire de très grandes choses par Dieu. Elles le sont encore. Oui, oui. Toutes les femmes ici, là, je vous le dis, vous êtes le plan pour Dieu, pour vous, là, c'est de faire des grandes choses pour lui. On ne voit pas comment, hein? On a des grandes capacités. Et on a également, on est nécessaire à son plan. Puis, Dieu utilise les femmes de manière différente. Est-ce que vous avez déjà vu quelque part dans la Bible un homme qui a été utilisé pour sauver un peuple par sa grande beauté? Vous lirez l'histoire d'Esther. Parce que Dieu, là, il nous invite à se battre de manière différente. On n'a pas besoin de se battre de la même manière. Oui, on se bat à ses côtés, oui. On ne repasse pas la source de comment est-ce que les combats se font dans la foi, mais il nous demande d'utiliser ce qu'on a. Il nous demande d'être, autant dans nos relations que dans son plan, de prendre, de voir avec ses lunettes la même vision qu'il a envers nous. Parce qu'on ne se voit clairement pas comme lui pour la plupart des femmes. Le sentiment mensonger de faire plus revient constamment. Hein? C'est un combat. Stacy Eldridge, une auteure d'un livre chrétien qui s'appelle « Cœur de femme », a dit que c'est le sentiment qui prend la femme aux entrailles, celui d'avoir échoué dans ce qu'elle est, poussée par la culture ou par l'Église, le message est le même. Faites plus d'efforts. Hello! C'est pas ça que Dieu dit. Non, pas en tout. Dieu, il nous donne sa grâce. C'est ça qu'il nous dit. Dieu ne dit pas « Faites plus d'efforts pour avoir de la valeur. » Dieu ne dit pas « Faites plus d'efforts pour que je vous aime plus. » Faites plus d'efforts pour pouvoir arriver à faire tout ce que vous avez à faire. Dieu, il nous dit d'aller se reposer en lui, puis qu'il nous donne sa grâce. Regardons Éphésiens 2. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés par, en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Hé, les femmes, vous êtes d'une grande valeur pour lui. La preuve, c'est qu'il a donné son fils. Il a donné son fils Jésus à la croix. Pas pour les hommes seulement, c'est pas écrit ça non plus. C'est pour l'humanité et on en fait partie. Sachez que si on reste accroché à lui, ça va être en lui qu'on va pouvoir aller chercher ça. Ça sera pas lorsqu'on va s'accrocher à nos propres forces puis à nos propres capacités, même si on en a des énormes, il y en a qui ont des forces incroyables, qui passent à travers des choses hallucinantes. Mais ce n'est pas ça qu'il nous demande. Il nous demande d'aller en lui, chercher notre valeur, retrouver notre identité. La grâce, elle est gratuite, elle est sans effort. On n'a rien, on ne doit pas rien faire. On doit juste accepter Jésus. On doit juste accepter de ne pas être capable de tout faire par soi-même, de se mettre à genoux et de dire « oui, c'est vrai. C'est ta grâce que je veux. » Si ce matin, c'est la première fois que tu entends parler de Dieu de cette manière-là, si le Dieu qui est le Dieu d'amour, dont son caractère, c'est la première chose, c'est l'amour qu'il y a pour nous, si c'est la première fois que tu entends ça, je t'invite vraiment à considérer, à voir si tu veux que ce soit lui, justement, qui rentre dans ton cœur puis qui vienne te supporter au quotidien. Si par contre, ça fait des années que tu es croyant, que tous les matins, peut-être même, tu as les yeux dans la Bible, tu as les yeux dans sa parole, tu te nourris de la vérité, mais sa grâce, tu as l'impression qu'elle reste là, puis qu'elle ne descend pas. Là. Elle reste dans ta tête, puis elle ne descend pas dans ton cœur. Peut-être qu'avant, oui, mais là, tu ne sais plus trop pourquoi, mais ça ne marche pas. Laisse-le te libérer à nouveau. Ce n'est pas parce que ça fait des années que tu le connais que tu n'as pas besoin encore de lui demander sa grâce. Veux-tu être touché par cette grâce-là ce matin? On va prendre le temps de prier ensemble. Il va y avoir un chant. Laisse Dieu te parler. Laisse Dieu venir te donner toute sa douceur à l'intérieur de toi. Abandonne-toi à lui. Puis après ça, on va avoir une équipe qui va être là, à la zone de bienvenue. Allez voir, Emmanuel va être là pour prier avec vous aussi. Allez les voir, dites-leur qu'est-ce qui se passe dans votre cœur. On est là pour prier ensemble. Alors Seigneur Jésus, je te prie Seigneur ce matin, que ce message-là, Seigneur, puisse aider chaque femme qui ne reconnaît pas sa valeur en toi à se mettre à genoux, à se bombarder de ta vérité, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je te prie que tu puisses accorder à chacune de ces femmes ton amour sans condition. Qu'elles vivent, qu'elles soient transformées, Seigneur, à travers toi. Si c'est pour encourager les hommes autour d'elles, Seigneur, à les aider à être élevés à toi, à ce qu'elles puissent entrer dans le plan que tu as pour elles, Seigneur, viens aussi t'adresser à ces hommes-là autour d'elles, Seigneur. Je te prie, Seigneur Jésus, que tu puisses, ce matin, avec toute la puissance que tu as, je te prie que tu viennes mettre une empreinte éternelle, Seigneur, sur leur cœur. Merci, Jésus.